C'est un grand privilège de pouvoir annoncer la parole de Dieu au milieu de vous. C'est aussi une grande difficulté. Ça fait longtemps que je sais que j'ai ce sujet à préparer. Et au fil des mois, quelques idées me sont venues. J'ai couché quelques plans sur un bout de papier. Et puis j'ai déchiré mes papiers, j'ai refait des plans. Tout ça dans vue de vous trouver une recette pour une grande église. Et je dois confesser que je n'ai pas encore trouvé. Je vais vous livrer quelques réflexions que j'ai pu trouver dans la parole de Dieu, d'autres que j'ai glanées ici et là, dans certaines études. Le titre, Les marques d'une grande église. C'est vraiment, je ne sais pas si vous avez déjà réfléchi un peu à ce sujet, mais c'est vraiment difficile parce que il y a très peu, qui peut dire j'ai une grande église et voilà comment je procède. Qui peut dire ça y est, j'ai trouvé la méthode. Il y a bien des méthodes qui existent pour remplir une salle. Certains font payer et remplissent de grands stades. Mais vous avouerez aussi que ce n'est pas nécessairement parce que une salle est pleine que l'on a une grande église. Qu'est-ce qu'une grande église? Humainement, nous mesurons en nombre de membres ou en nombre de chaises. Parfois, ça nous arrange. Parfois, nous mesurons en euros de budget ou de euros de budget missionnaire. En quantité d'activités ou de réunions qui ont été données, mais il est très évident que le Seigneur ne mesure pas avec ce cordeau et qu'il ne pèse pas nos églises avec cette balance-là. Alors, Seigneur, qu'est-ce que pour toi une grande église? Et j'aimerais encore qu'on s'incline dans la prière avant d'examiner quelques vérités. Seigneur notre Dieu, combien nous te sommes reconnaissants parce que tu nous encourages au travers de ta parole à marcher fidèlement, parce que tu nous as tout donné, ce qui contribue à la vie et à la piété, parce que Christ est avec nous tous les jours de notre vie pour pouvoir nous soutenir dans ton œuvre. Te remercions parce que c'est toi qui as promis, je bâtirai mon église, les portes du séjour des morts ne prévaudront point contre elle. Et Seigneur, je suis obligé devant toi et devant tous mes frères et sœurs ici de confesser que j'ai bien de la peine, Seigneur, à trouver les marques d'une grande église. Aussi, Seigneur, au travers de ta parole, enseigne-nous ces choses, celles qui ont de la valeur à tes yeux, celles qui ont du prix pour toi, et que dans ta grâce, eh bien, tu nous aides à travailler, Seigneur, sous tes ordres, avec toi, en comptant sur ton secours pour que l'église que tu bâtisses, Seigneur, soit vraiment à ta gloire et qu'elle te glorifie. Je t'en prie par Jésus-Christ. Amen. La première des choses que j'aimerais voir avec vous ce soir, c'est que, à mon sens, une grande église est une église qui accomplit sa vocation. Et sa vocation est grande. Et c'est parce qu'elle a une grande vocation que si elle l'accomplit, elle peut être une grande église. Le paquebot France, que vous connaissez, est le plus grand paquebot du monde. Il a 315 mètres de long, il a près de 34 mètres de large, il a une capacité de 2044 voyageurs, passagers, il a coûté 274 millions de francs, il a été utilisé dans les années 62 à 79 pour traverser l'Atlantique. Mais est-il un grand navire? Aujourd'hui, c'est un grand gouffre financier, oui, ça on est sûr. C'est un grand tas de ferraille, on est sûr aussi. Et il est en route pour l'Asie actuellement pour être vendu au poids et probablement fondu. Il a failli devenir un grand musée, un grand hôtel-restaurant. Dans le port de Honfleur, avec une grande salle de spectacle et un grand casino. Mais ça fait longtemps qu'il n'a pas transporté des voyageurs au travers de l'Atlantique. Et ça, c'était la raison pour laquelle il a été créé. Et la question qu'on peut se dire, c'est un grand navire est-il un grand navire quand il n'accomplit pas la raison pour laquelle il a été créé? Évidemment non. Eh bien, une église est grande également si elle accomplit la vocation pour laquelle elle a été créée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Alors, qu'est-ce qui motive votre église? C'est-à-dire, pour quelle raison vous allez à l'église ou pour quelle raison vous êtes engagé dans une église? Est-ce pour perpétrer la tradition, fut-elle baptiste? Vos parents, vos arrière-grands-parents étaient des baptistes ou étaient des évangéliques? Eh bien, il faut perpétrer cette vérité, il faut perpétrer cette chose. Est-ce pour plaire aux pasteurs qui s'y donnent tellement? On ne va pas le laisser tomber quand même, ce pauvre gars. Est-ce pour réunir un groupe d'amis de longue date, des gens qui ont bien 10, 20, 30, 40 ans de partage? Est-ce pour promouvoir encore quelques valeurs morales dans un monde qui n'a plus de repères? Est-ce satisfaire les besoins de quelques personnes en quête de spiritualité? Est-ce éduquer et préserver encore l'éducation de nos enfants? Est-ce pour chanter et jouer de la musique ensemble? Est-ce occuper nos jeunes dans de saines activités? Toutes ces raisons-là ne sont pas valables et ne peuvent pas faire une grande église. Une grande église a une grande vocation, sa vocation lui a été donnée par le Seigneur Jésus-Christ lui-même. Et elle est multiple, cette vocation. J'ai trouvé cinq choses, peut-être y en a-t-il d'autres, mais la première chose, la première vocation de l'église est de glorifier et adorer le Seigneur. Dans la première épître aux Éphésiens, il est dit au chapitre 1 et au verset 12, afin que nous servions à la louange de sa gloire. Nous nous réunissons pour célébrer notre Créateur. Nous nous réunissons pour adorer notre Sauveur. Nous nous réunissons pour glorifier le Seigneur ressuscité. Toute notre attitude doit tendre vers la gloire de Dieu. Faites tout pour la gloire de Dieu. L'Église contemporaine est parfois plus soucieuse de plaire aux hommes au Seigneur lui-même. Parfois, toute l'action est préparée pour les gens, pour que les gens s'y sentent bien, pour que les gens puissent y venir nombreux, pour qu'ils puissent y faire garder leurs enfants, pour que... Et tout est centré sur les personnes et non plus sur Jésus-Christ lui-même. La deuxième chose, c'est évangéliser. Jésus a dit, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. L'Église n'est pas un club privé, mais une œuvre qui est tournée vers le monde. En Actes chapitre 1 et au verset 8, il est dit, vous recevrez une puissance, le Saint-Esprit survenant sur vous, et vous serez mes témoins à Jérusalem, dans la Judée, dans la Samarie et jusqu'aux extrémités de la terre. Est-ce que notre Église a pour vocation d'évangéliser notre quartier? Et c'est pour ça qu'elle est locale. Et peut-être même notre ville, notre pays, notre monde. Et c'est ce que chaque Église locale devrait connaître comme vision évangélisée. La Sainte Cène que nous pratiquons dans l'Église locale est là pour rappeler la mort de Jésus-Christ et son retour. Une autre chose, ce serait de communier dans le sens de partager. manifester l'unité du corps de Christ dans la souffrance, dans la joie, dans la prière. L'apôtre Paul dit en 1 Corinthiens chapitre 12, verset 27, « Vous êtes le corps de Christ et vous êtes ses membres, chacun pour sa part. » Samuel nous a lu tout à l'heure tous les uns les autres. C'est cela, communier. L'Église est là pour justement offrir aux croyants la communion. Une des raisons d'être de l'Église, c'est d'être une vitrine pour le monde, présentant le joyau créé par l'œuvre rédemptrice de Jésus-Christ. Dans l'Évangile de Jean, chapitre 13, au verset 35, il est dit, vous connaissez certainement ce verset, il est dit, « À ceux-ci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. » Et puis, dans la prière du Seigneur Jésus, en Jean 17 et au verset 21, il est dit, « Afin que tous soient un, comme toi, Père, tu es en moi et comme je suis en toi, afin que eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. » Ici, on a la démonstration de l'œuvre de Jésus-Christ dans l'Église, au sein de l'Église. Et ça, c'est sa raison d'être. Et puis, une quatrième chose, ce serait d'édifier les croyants. Les pierres vivantes s'édifiant les unes sur les autres. C'est-à-dire éduquer le peuple de Dieu. J'aime cette parole de l'apôtre Paul en Colossiens chapitre 1, versets 28 et 29. Et pasteur, vous pouvez faire de cette parole un but pour votre Église. C'est lui que nous annonçons, exhortant tout homme et instruisant tout homme en toute sagesse, afin de présenter à Dieu tout homme devenu parfait en Christ. C'est à quoi je travaille, en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Quel programme pour l'apôtre Paul ! Quel programme pour une Église ! Édifier chacun, avoir en vue la stature parfaite de Christ et essayer d'amener chacun à cette ressemblance. Bien sûr, l'apôtre Paul le rappelle ici, c'est à quoi je travaille en combattant avec sa force qui agit puissamment en moi. Le Saint-Esprit est à l'œuvre dans toute l'Église et une grande Église doit travailler par le Saint-Esprit. Il est dit que sans le Saint-Esprit, aucune âme ne peut être convaincue de péché, de justice et de jugement. Que sans le Saint-Esprit, aucune âme ne sera transformée à la ressemblance. C'est le Saint-Esprit qui, saisissant les choses et le caractère de Jésus-Christ, peut l'appliquer au caractère du chrétien. Et ça, c'est l'œuvre d'une vie. Une nouvelle naissance se fait en un instant. Un disciple, c'est l'œuvre d'une vie. Le Seigneur Jésus a mis 3 ans pour préparer ses disciples. Et quand il est parti, tous l'ont abandonné. C'est une vie à plein temps que de travailler à la formation d'un disciple. C'est pourquoi l'œuvre est immense. C'est pour ça que ça doit réclamer tout notre engagement, toute notre force. Et puis une dernière chose que j'ai relevée, c'est que l'Église a pour vocation de servir. Ça a été abordé déjà. C'est-à-dire manifester l'amour de Dieu à travers le service. Le Seigneur Jésus est venu pour être serviteur. Il est venu pour servir et non pour être servi. C'est par l'Église que l'affligé, le désespéré, le coupable peut rencontrer l'amour, l'aide, le pardon, la paix, la vérité, l'espérance et la direction pour sa vie. Vous avez au fond, à gauche de la salle, le stand du messager de la paix. C'est une œuvre de service. Et ça provient des églises. Et Louis parcourt les églises de France, les églises locales, pour mettre ce fardeau sur les églises, de soutenir, de secourir, de servir pour l'avancement de l'œuvre d'une Église qui est affligée, qui est dans le besoin, pour amener la vérité de l'Évangile à une population et notamment à des personnes en grande difficulté. Le but répond à la question pourquoi est-ce que nous existons? Pourquoi je vais à l'église? Pourquoi je m'engage dans cette église? Si l'église perd de vue sa raison d'être, elle ne peut pas s'attendre à être à une grande église. Comme le France, elle pourra espérer être une grande salle de spectacle, et c'est ce qu'on voit souvent. Elle pourra être un grand restaurant, mais pas une grande église. La deuxième chose que je voudrais relever ce soir, c'est d'avoir une vision pour l'église, pour son église. On a un navire. Ce navire a une vocation, a une mission à accomplir. Et il faut savoir comment est-ce que ce navire va pouvoir accomplir cette mission. En Actes chapitre 10, vous connaissez ce passage où l'apôtre Pierre a une vision. Il est en prière et là, il reçoit une vision de la part de Dieu. Une nappe immense descend et là, il y a des animaux impurs qui sont là. Et une voix, la voix du Seigneur lui dit, « Pierre, tue et mange. » Et lui, il dit, « Non, Seigneur, j'ai jamais mangé des animaux impurs, comment je vais commencer à le faire ?» Et à trois reprises, la nappe redescend et lui dit, « Pierre, tue et mange. » Et à ce moment-là, l'apôtre Pierre a cette vision du monde païen. Le Seigneur lui dit, ce que j'ai déclaré pur, ne le regarde pas comme souillé. Et cette vision-là va bouleverser l'Église primitive. À ce moment-là, l'apôtre Pierre va changer toute sa pensée sur le travail qu'il était en train d'accomplir dans l'œuvre du Seigneur. Pour lui, pourtant, il avait eu le même verset de Matthieu chapitre 28, qui dit « Allez, faites de toutes les nations, toutes les nations !» Mais non, l'apôtre Pierre, il travaillait à Jérusalem, et il travaillait parmi le peuple juif. Il n'était pas question d'annoncer l'Évangile ailleurs. Et cette vision a bouleversé sa vie, a bouleversé son cœur, a bouleversé ses idées, ses préjugés, et il a été transformé. Les hommes de Corneille sont venus le chercher, il est parti avec eux, et il a annoncé l'Évangile, lui le juif, à des païens. À des païens. Sans cette vision, que serions-nous devenus? Sans cette vision, l'Évangile aurait-il été annoncé au monde païen? Seigneur s'était déjà un peu arrangé à les faire quitter Jérusalem avec les persécutions. Mais là, ce sont tous les chrétiens, toute l'Église de Jérusalem qui a été gagnée par cette vision. Ils ont dit, mais si donc Dieu a accordé la repentance aux païens, alors c'est merveilleux, réjouissons-nous et courons annoncer le message de l'Évangile et envoyons des chrétiens. Pas au travers du monde. La vision, elle est nécessairement en harmonie avec les buts de l'Église, avec la vocation de l'Église qu'on vient d'énoncer il y a quelques instants. D'ailleurs, la vision ne peut que servir. Si elle est de Dieu, elle va servir nécessairement la vocation. Elle va se soumettre à la vocation de l'Église. La vision est quelque chose d'ouvert. C'est un défi. Ce n'est pas l'entreprise privée d'un seul chrétien, d'un leader ou d'un pasteur. La vision, c'est la vision d'une église. C'est celle de chacun de ses membres et de chacun de ses responsables. La vision, elle est vitale parce qu'elle est inspirante pour toute l'église. Ce n'est pas seulement un rêve. Non, elle est décisive dans la marche quotidienne des chrétiens. La vision est une chose qui engage. qui rassemble les chrétiens, qui les pousse dans l'œuvre. La vision, elle est basée sur une compréhension correcte de Dieu, sur une compréhension correcte des hommes et sur une compréhension correcte des circonstances. Comment atteindre les Marocains? Ça, c'est la question que se pose Michel. La vocation, sa vocation, il la connaît. Glorifier le Seigneur, évangéliser, communier, édifier, et puis servir. Mais comment y arriver? Comment entrer dans ces plans? Et c'est là toute la difficulté que l'on peut rencontrer. Parfois, quand on parle de l'engagement des chrétiens dans l'Église, on leur colle une pression terrible. On leur dit, mais si tu veux être un vrai chrétien, ben, t'es là tous les dimanches, mon gars. Et puis, il faut que tu serves le Seigneur. Et puis. Mais le problème, c'est que la personne, elle reçoit une pression sur lui, mais elle ne sait pas quoi faire de cette pression. Ce n'est pas la pression. Ce n'est pas de culpabiliser les chrétiens qui fait qu'ils avancent. C'est quand on les engage dans une vision, qu'on leur partage notre fardeau et qu'ils ont compris le plan de Dieu et qu'ils le rejoignent et qu'ils vont servir dans ce plan-là. Et ils ont compris, ils partagent ces choses-là. Et c'est ça qui doit bouleverser une église. Et c'est ça peut-être qui peut apporter, faire d'une église une grande église selon le plan de Dieu, en dehors de toute considération numérique. Quelle est la vision de votre église aujourd'hui? Ça peut être, on partageait ça par Internet dans les sujets de prière, atteindre les sourds-muets de votre ville. C'est peut-être une vision, ça. Alors, dans ce cas-là, toute mon église va chercher à faire des contacts avec des sourds-muets et d'atteindre les sourds-muets. Il faudrait que je commence à apprendre le langage des signes. Et tout dans la configuration de mon église, tout dans l'organisation de mon église sera faite pour atteindre les sourds-muets. Mathilda Vred, vous connaissez certainement, c'est une jeune Finlandaise, elle a eu la vision d'annoncer l'évangile aux prisonniers en Finlande. Et ça a engagé toute sa vie. Et sa famille l'a rejoint dans cette vision-là. Mais même d'autres églises lui ont donné les moyens d'accomplir cette vision-là. Et puis ensuite, c'était soutenir les prisonniers à la sortie de l'église, de la prison. William, vous suivez hein, au moins. William et Catherine Booth. Un jour, il s'est présenté devant les gens, et puis son cœur saignait dans les banlieues de Londres de voir la misère morale, l'alcoolisme qui ravageait toutes ses familles. Il a dit, mais c'est ça ma vie maintenant. Et sa femme a dit, mais c'est la mienne aussi. Et puis il a commencé à gagner des gens autour de lui. Il a dit, on va gagner les gens de ces faubourgs. Et on va aller les chercher dans leur misère et on va leur donner du savon, mais on va leur donner l'évangile. Parce que c'est l'évangile qui peut les transformer. Et c'est ça qui a animé cet homme. Et l'armée du salut est née. Et les gens, je ne partage pas tout ce qu'a fait l'armée du salut depuis, mais l'armée du salut a été engagée dans cette mission-là parce qu'ils avaient une vision. Olivier a parlé, je crois, tout à l'heure dans son message, du pasteur Oswald Smith. Si vous n'avez jamais lu sa biographie et la Passion des âmes, le livre qu'il a écrit sur l'œuvre de l'Église de Toronto, c'est admirable. La vision, c'était les champs qui blanchissent pour la moisson. C'était essayer d'atteindre les extrémités de la terre avec cette église de Toronto. 300 missionnaires étaient soutenus par cette église. Ça, c'est une vision. Vous savez, quand les gens donnaient leur offrande le dimanche, ils savaient, ils partageaient cette vision. Ils donnaient bien plus que leur dîme. Quand il s'agissait de refaire les murs de l'église, de remettre un coup de pinceau, ils étaient tiraillés. Ils ne le faisaient pas, ils préféraient envoyer encore un autre missionnaire. Parce que toute la vision était partagée par l'église. Et là, l'église était unie. Elle partageait et elle poussait toute l'œuvre dans le même sens. Frère André, avec l'œuvre de Portes Ouvertes, je ne partage pas non plus tout ce que fait Frère André. Mais une chose qu'il a faite, c'est qu'il a eu à cœur de passer des Bibles dans le bloc de l'Est, au péril de sa vie, animé par un courage. C'était sa vision pour sa vie. Et puis d'autres ont commencé à regarder, mais ce gars-là, il fait un travail extraordinaire. Et puis d'autres ont donné. Et les églises soutiennent et portent cette œuvre. Et les églises envoient des ouvriers et donnent pour le passer des Bibles. Et puis, le bloc de l'Est est tombé, le rideau de fer s'est effondré. Alors, Portes Ouvertes s'est effondrée aussi. Non, la vision a continué, mais la vision, elle s'est déplacée parce que la vision, elle vit, elle se transforme, elle prend en considération les choses actuelles, elle prend en considération les circonstances, les gens et le peuple dans lequel on travaille, avec lequel on travaille. Et la situation, elle a changé. Ils ont travaillé avec l'Asie et ils ont derrière le rideau de bambou. Et puis maintenant, ils travaillent beaucoup avec les pays de l'islam. La vision vit. La vision évolue. Proverbe 29, verset 18, vous connaissez ce verset. Quand il n'y a pas de vision, le peuple est sans frein. Ça signifie quoi, ça? S'il n'y a pas de vision, les gens se laissent aller. Les gens se laissent aller. Et il faut amener une vision pour engager les gens, pour guider l'Église, pour l'amener plus loin. Tous ceux qui ont accompli une grande œuvre avaient une vision. Mieux, ils incarnaient leur vision. Je pense à Hudson Taylor, quand il est arrivé en Chine, la vision, c'était d'être au milieu des Chinois pour enseigner l'évangile aux Chinois. Et c'est d'être comme les Chinois, autant qu'il pouvait l'être, en tant que chrétien. Il l'a été. Toute l'œuvre se tenait sur la côte, mais lui, il a dit non, non. La vision, c'est d'atteindre la Chine, l'intérieur. Et d'atteindre et il a engagé les gens. Il a fait un voyage en Angleterre, il a dit, je ne vous promets rien, pas d'argent, mais du travail, des persécutions, mais suivez-moi. Et les gens ont pris le bateau. Des jeunes se sont engagés parce qu'il y avait une vision. On a besoin d'une vision. On a tous réalisé que le temps passe vite. La vie est courte et incertaine. Le plus triste est de la vivre sans savoir pourquoi. Sans vocation, sans vision, on est là comme un poisson mort entraîné par le courant. Quelle est notre vision? Quelle est notre vision pour l'Église? En Matthieu, au chapitre 9, et au verset 36, il est dit, voyant la foule, Jésus fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples, la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Pour faire constater à ses disciples la grandeur de la moisson, le manque d'ouvriers, sa suggestion, c'est la prière. Priez le maître de la moisson. Une grande église, c'est une église qui a un esprit de prière. Un esprit qui cherche la face de Dieu. La vision qu'a eue l'apôtre Pierre, elle n'est pas venue comme ça. Il était en prière. Et c'est dans la prière qu'il a reçu la conviction, cette ferme assurance. Maintenant, je sais comment on doit poursuivre l'œuvre. Et ça a animé toute sa vie. Une grande église, c'est donc une grande vocation, une grande vision, et puis un grand nombre de fruits. Y a un syndrome, parfois en France, c'est le syndrome du petit nombre. Et c'est tellement dur de gagner une âme. C'est tellement dur de la garder que parfois on désespère. Et puis finalement, on voit d'autres qui prospèrent autour de nous. Et ils prospèrent avec des méthodes qu'on ne voudrait pas employer. Et on est blessé au fond de notre cœur parce qu'on se dit, ben voilà, eux, ils ont du monde, et ils leur disent des bêtises. Et nous, on a des vérités essentielles. Et eux les reçoivent. Et alors on se dit, bon, tant pis. L'important, c'est de rester fidèle au Seigneur. Et on oublie la pensée de porter du fruit. J'ai lu ce proverbe populaire qui dit « On ne travaille pas pour se réchauffer. » J'aime ça. On ne travaille pas pour se réchauffer, vous savez. Le but de travailler, ce n'est pas pour se réchauffer. Allez, je vais aller couper du bois parce que j'ai un peu froid là. Non, non. Le but, c'est d'avoir du fruit, de porter du fruit. Et c'est ce qu'on doit avoir en tête, de porter du fruit. Il faut des résultats. Plus ils sont abondants, mieux c'est. Le Seigneur Jésus a réalisé un ministère intensif et des résultats étaient surprenants. L'évangéliste Jean dit que il a fait tellement de choses qu'on a... On aurait du mal à tout écrire, que si on les écrivait avec détail, la terre entière ne pourrait pas contenir tous ces livres. Et il a affirmé, tout sarment qui est en moi et qui ne porte pas de fruit, il le retranche. Et tout sarment qui porte du fruit, il l'émonde pour qu'il porte encore plus de fruits. Dans la pensée du Seigneur, il y a de la productivité. J'aime ça. Il veut nous faire porter plus de fruits. Plus de fruits. Et il nous émonde. Et les choses difficiles que nous rencontrons, c'est pour nous faire porter plus de fruits. Il dit dans le même chapitre, au verset 8, dans Jean 15, « Si vous portez beaucoup de fruits, c'est ainsi que mon Père sera glorifié et que vous serez mes disciples. » Rappelons-nous de la vocation première de l'Église. Glorifiez Dieu. Si vous portez beaucoup de fruits, alors vous glorifierez le Seigneur. En Jean 15, verset 16, toujours dans le même chapitre, il dit « Ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais moi je vous ai choisi et je vous ai établi afin que vous alliez et que vous portiez du fruit et que votre fruit demeure, afin que ce que vous demanderez au Père en mon nom, il vous le donne. » On entend parfois « Dieu nous appelle à être fidèles, non à porter du fruit. » Nous devons choisir entre qualité et quantité. Entre compromettre le message ou faire croître notre église. On dit aussi parfois les grandes églises croissent aux dépens des petites. Nous ne devons pas nous préoccuper des résultats. Les résultats appartiennent à Dieu. Mais je ne suis pas d'accord avec ça. On n'a pas à choisir entre qualité et quantité. On n'a pas à faire ce choix entre quantité et qualité, ou entre fidélité et fruit. Une grande église, elle a les deux. Messieurs, est-ce que vous voulez que votre épouse soit formidable, mais stérile? Ou est-ce que vous voulez une épouse qui ne soit pas formidable, mais féconde? Si je peux choisir, je vais prendre les deux. Je vais en prendre deux. Non, je crois qu'on veut une femme formidable et féconde. Amen. J'ai trouvé. C'est aussi ce que le Christ veut pour son épouse. Il veut une épouse de qualité. Il la veut irréprochable. Et il la veut portant du fruit. Une grande église est une église qui croit en quantité et en qualité. Elle doit porter des fruits spirituels abondants. Et dans les fruits, il y a ça, des fruits spirituels. L'amour, la joie, la patience, la sainteté, la fidélité, la foi, la libéralité, la persévérance, la reconnaissance. Et cela, dans chacun de ses membres. Elle recherche l'excellence. Elle ne vise pas moins que la stature parfaite de Christ. Dans l'Église primitive, on trouve plusieurs grandes qualités mentionnées dans le livre des Actes. Et alors, le mot pour « grande », en grec, vous le connaissez, en tout cas les jeunes le connaissent, c'est « méga ». Méga, une église méga. Aux États-Unis, il y a les « méga church », qui sont parfois des grandes agences matrimoniales, des grandes salles de concert, mais pas forcément des grands supermarchés aussi, mais pas forcément des grandes églises au regard de Dieu. Mais quand même dans les actes, j'aimerais regarder plusieurs versets avec vous. Prenez Actes chapitre 4, verset 33. Acte 4, 33. Il faut que j'accélère un peu, je crois. Il est dit ici, « Les apôtres rendaient avec beaucoup de force témoignage de la résurrection du Seigneur Jésus et une grande grâce reposait sur eux tous. » Une méga grâce, une grande église, c'est une église où la grâce repose. La grâce, c'est pour des coupables. La grâce, c'est pour des gens qui sont des pécheurs, des gens qui ont été condamnés, déclarés condamnés, et qui se sont approchés du Seigneur et qui ont trouvé un plein pardon. Cette église primitive à Jérusalem était tellement pleine de cette grâce-là, de ce sentiment d'avoir été gracié, que personne ne disait que ce qui lui appartenait, que les choses qu'il avait lui appartenaient. Et là, dans l'église, dans nos églises, parfois, ben, ah non, ça c'est à moi, hein. Et puis moi, j'ai travaillé pour avoir ça. Et puis bon, ben moi, je suis ça. Mais quand une église est dans la vit dans la grâce, il n'y a que des coupables. Alors les gens du dehors, eh bien, ils aiment bien rentrer. Parce que quand ils se sentent coupables, eh bien, ils se sentent accueillis par des coupables. Et puis là, ils peuvent connaître aussi ce pardon, cette joie de connaître le Seigneur. Et puis, il y a une liberté entre les frères. Toutes les barrières des hommes tombent devant la grâce, puisque tous ont été jugés et condamnés de la même manière, la même peine, et le même salut leur est accordé. Dans cette église primitive, il y avait cet esprit de grâce et ça produisait un grand amour, une grande unité qui était manifestée par une grande libéralité. Vous savez, je vais vous faire une confidence de pasteur. Je pense que tous les autres pasteurs peuvent dire la même chose. On vient souvent critiquer mes membres. Parfois, c'est les mêmes membres qui viennent critiquer l'autre vers moi. Ils disent, tu sais, un tel, il devrait faire des efforts quand même. Et puis un tel, il pourrait. Et puis une telle, n'en parlons pas. Et chaque fois qu'on vient me voir comme ça, je prends toujours la défense de mes brebis. Et je me demandais il y a un moment, est-ce que c'est juste de faire ça? Et finalement, je me suis rendu compte que je le faisais pour tous. C'est-à-dire, un tel vient me critiquer une telle, et puis après, c'est lui qu'on vient critiquer. Et de la même manière, j'explique. Je cherche à montrer par quelles choses, par quels événements de la vie sont passés certains. Et quand on voit encore un frère ou une sœur qui n'est pas aussi avancé qu'on aimerait, qu'on la regarde, parfois on la juge, etc. Mais quand vous connaissez sa vie, vous pleurez. Vous pleurez, vous dites, mais c'est pas possible qu'une personne soit comme ça. C'est pas possible de qu'avec ce qu'elle a vécu, qu'elle soit encore comme ça. Et la grâce, elle met tout le monde sur le même pied d'égalité. Et elle unit l'Église. La grâce, elle s'opère dans une église comme celle-ci. Regardez verset 32, et ça c'est le miracle de la grâce. La multitude de ceux qui avaient cru n'était qu'un cœur et qu'une âme. Nul ne disait que ses biens lui appartenaient en propre, mais tout était commun entre eux. Les gens ont oublié que quand ils sont doués, ils ont reçu un don. Quand ils sont intelligents, ils ont oublié qu'ils n'ont rien fait pour l'être. Quand ils ont une bonne éducation, ils ont oublié qu'ils ont reçu cette éducation. Et qu'est-ce qu'ils ont, eux, apporté? Rien du tout. Rien. Et c'est pour ça que quand on est pétrifié par cette grâce dont on a été favorisé en Jésus-Christ, alors on regarde ses frères différemment. Et là, l'Église peut grandir parce qu'il y a toute une atmosphère pour qu'elle puisse grandir. L'unité est là. Et dans cette Église-là, un seul âme, une seule. Trouvez-moi un plus grand miracle que celui-ci. La multitude de ceux qui avaient cru, et ils étaient combien à ce moment-là? 5 000, au moins 5 000 à Jérusalem à ce moment-là. Mega church. Mais unis, une seule âme, vivant tous les uns pour les autres. Là, c'était quelque chose, une grande grâce. Et puis, dans le même verset, on trouve, verset 33, toujours les apôtres rendaient avec beaucoup de force, méga force. Le mot pour beaucoup, c'est méga encore. Une beaucoup de force. Pourquoi il y avait beaucoup de force? Mais parce que le Saint-Esprit pouvait œuvrer dans cette église. Il était libre d'agir. Il y avait cette puissance qu'ils avaient reçue quelques jours auparavant pour les conduire, pour agir. Et puis, un petit peu plus loin, au chapitre 5, quelques versets plus loin, il est dit au verset 5, Ananias, vous connaissez l'histoire d'Ananias et Saphira, entendant ces paroles, tomba et expira, et une grande crainte saisit tous les auditeurs. Et puis au verset 11, il est dit, une grande crainte s'empara de toute l'assemblée et de tous ceux qui apprirent ces choses. Oui, il y avait aussi une méga crainte dans cette église. La crainte de Dieu. Oh, ça, c'est une qualité aussi pour une grande église. Dans cette affaire avec Ananias et Saphira, soit Ananias, soit le Saint-Esprit devait quitter l'église. C'est Ananias qui a quitté l'église, les pieds devant. La pureté de l'église primitive était telle qu'un mensonge de ce type ne pouvait y subsister. Dans l'église primitive, il n'y avait pas de légalisme. Il y avait la crainte de Dieu. Le légalisme vient quand la crainte de Dieu n'est plus. On est obligé de dire il faut. parce que Dieu n'est plus craint, n'est plus respecté. La crainte, c'est la marche dans la lumière, c'est connaître Dieu dans sa sainteté et être connu de lui le plus intimement qui soit, dans les moindres de nos actes, de nos pensées. C'est ça la crainte. Et l'effet constaté, eh bien, c'était une grande augmentation de ceux qui croyaient. On veut une grande église? Craignons Dieu de tout notre cœur. Et puis, il y avait aussi une grande persécution, et ça, ça va toujours avec les grandes églises. Chapitre 8, au verset 1, il est dit « Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne et il y eut en ce jour-là une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dispersèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. » Il y avait une grande persécution, et ça, ça va toujours de pair. Une église qui vit dans la grâce, une église qui vit dans la crainte de Dieu, représente une terrible menace pour les intérêts du diable. Et c'est pourquoi il n'a de cesse de l'attaquer. On a vu sur notre prospectus de cette convention, voilà pourquoi elle est tellement attaquée. Et puis, une des armes de du diable, eh bien, c'est la persécution. La persécution, elle a un effet positif pour une grande église. La persécution, elle nous replace dans la réalité de la vie en Christ. Alors, une seule chose a une véritable importance, c'est Jésus-Christ et la vie éternelle. Ça, ce sont les seules richesses que nous possédons vraiment. Dans un pays comme le nôtre, où nous ne connaissons pas de persécution, l'immense difficulté est de vivre justement dans la sphère spirituelle. Lorsque les choses matérielles abondent, lorsqu'aucune menace nous est faite, lorsque le risque n'y est pas, on n'est plus autant sur la brèche. La plus grande menace pour nos églises, c'est justement l'absence de difficultés. Une grande église est une église qui doit s'armer de cette pensée de connaître des troubles, des difficultés, de l'opposition, à l'intérieur, à l'extérieur. L'effet constaté encore avec la persécution, eh bien, c'est la croissance de l'Église. Qu'est-ce qui peut retenir une Église qui vit dans la grâce, dans la crainte, dans la persécution? Rien. Et puis, ce qui va avec la persécution, c'est la joie. Lisez, relisez tous les passages qui parlent de persécution des chrétiens. À chaque passage est associée la joie. Réjouissez-vous, a dit le Seigneur. Réjouissez-vous. Et visitez les pays où ils sont persécutés, vous trouverez des chrétiens qui sont joyeux. Un grand nombre de croyants, c'est encore un point. En Actes chapitre 11, il est dit voilà, qu'il y avait un méga nombre de croyants, une grande église. La main du Seigneur était avec eux et un grand nombre de personnes crurent et se convertirent au Seigneur. Et puis à Icône, au chapitre 14, verset 1, Paul et Barnabas entrèrent ensemble dans la synagogue des Juifs et ils parlèrent de telle manière qu'une grande multitude de Juifs et de Grecs crurent. Une grande multitude. Oui, du fruit abondant. Une grande église peut compter sur du fruit abondant. Et je crois qu'il n'y a pas en France plus grand sujet d'humiliation pour les pasteurs. Plus grande tristesse, plus grand sujet de larmes que de voir peu de fruits. C'est humiliant. Il n'y a pas de pasteur qui ne pleure pas en voyant le peu d'âmes. Il n'y a pas de pasteur qui ne se remet pas en question à cause du peu d'âmes gagnées. Ça, c'est une vérité. Mais une chose qui peut nous permettre de gagner du fruit, de glaner du fruit, eh bien, c'est l'œuvre missionnaire. Et je crois qu'une grande église est une œuvre missionnaire. Elle n'a pas simplement l'église locale, c'est-à-dire ma petite ville de Toulouse, mon quartier, mais elle voit jusqu'aux extrémités de la terre. Une grande église est une église qui voit jusqu'aux extrémités de la terre. Et vous dites, ah oh oui, mais nous, on est 10. Alors, pas question d'envoyer un missionnaire. Vous faites erreur. Vous êtes 10 parce que vous n'avez pas de missionnaire. J'en suis convaincu. Quand on s'occupe des affaires de Dieu, Dieu s'occupe de nos affaires. Et si nous voulons voir grandir nos églises, il faut commencer à s'occuper des affaires de Dieu. Ce qui préoccupe Dieu, c'est les âmes qui périssent et son Église qui est dans le besoin aux extrémités de la terre. Et Dieu veut que l'on manifeste le corps de Jésus-Christ, l'Église universelle. Et c'est possible de le faire dans l'Église locale, justement en soutenant un membre du corps de Christ à l'autre bout de la planète. Et c'est votre Église locale et qui le soutient et qui le porte dans la prière. Jésus a dit, comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Jean chapitre 20, verset 21. Quel modèle! Est-ce qu'on peut avoir meilleur modèle? Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. Quelqu'un a dit, la santé ou la grandeur d'une église se mesure par sa capacité d'envoyer des missionnaires, non par le taux d'occupation des bancs qu'elle possède. Jésus-Christ, c'est notre modèle, comme le Père l'a envoyé. Lui aussi, il nous envoie. Comment le Père a envoyé Jésus dans le monde? La réponse à cette question détermine la manière dont nous devons aller à Jérusalem, en Judée, en Samarie, jusqu'aux extrémités de la terre. Je distingue plusieurs points ici. C'est l'amour qui a été le mobile de l'envoi de Jésus-Christ dans ce monde. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Celui qui n'aime pas ne sert ni Dieu ni son prochain. L'amour de Dieu est notre exemple. Paul dit, c'est l'amour de Christ qui nous presse. Voilà notre motivation pour aller au-delà des frontières. Être missionnaire au Maroc, demandez-le à Michel. Eh bien, ça demande d'aimer profondément les Marocains. Mais de les aimer profondément. Et c'est ce qui a motivé l'amour de Jésus, le Dieu pour envoyer son Fils, son amour pour nous. Et puis le sacrifice de Dieu, ça c'est aussi le modèle qu'il nous donne. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique. Il y a eu un sacrifice de Dieu. Dieu a donné le meilleur de lui-même au monde. Faire de la mission, c'est donner au monde le meilleur de nos fils. Le meilleur de nos membres. Une grande église est prête à consacrer de grands sacrifices pour voir l'œuvre de Dieu avancer. Demandez aux pasteurs, quand ils ont un jeune qui se lève, c'est celui qui faisait les présidences, celui qui était au piano, celui qui était à la guitare, celui qui était en train de distribuer les traités. Et lui, il dit, je m'en vais, le Seigneur m'appelle, je vais partir à l'autre bout de la planète. Demandez au pasteur si ça lui fait quelque chose ou pas. Ça lui fait quelque chose. La personne qui fait rien mais qui critique tout le temps, elle est toujours là. Et lui qui fait tout, il s'en va. Je peux vous dire, c'est un sacrifice. C'est dur. C'est dur, oui. Mais c'est avec ce sacrifice-là que Dieu fait progresser son œuvre. Et il fait progresser l'œuvre là-bas au bout du monde et la vôtre aussi. Et puis, dans le modèle de Christ, nous avons l'incarnation. Pour annoncer le message du salut, Dieu s'est incarné. Nous devons incarner les vérités que nous prêchons. Ne partez pas au Maroc si vous méprisez les Marocains. Ne n'allez pas évangéliser les sourds-muets si vous n'avez pas d'amour pour eux. Il faut incarner Christ. Et ça, c'est rendu possible par le Saint-Esprit. Et avoir dans notre vision d'Église, dans notre vocation d'Église, de faire des véritables Christ, de petits Christ qui peuvent être envoyés au-delà des mers. Et puis, Christ aussi est le plus grand des prophètes, si je peux me parler ainsi. Moïse a dit que le Père, que Dieu susciterait un prophète comme Moïse. Christ s'est incarné et il a prêché, il a annoncé, il a parlé. Et c'est ce que nous devons faire aussi. Tout chrétien devrait pouvoir dire « J'aime mon Église, j'aime mon Église ». Est-ce que vous pouvez le dire, ça? J'aime mon Église, non pas parce que c'est la meilleure, mais parce que c'est une Église qui cherche à accomplir la vocation pour laquelle elle a été créée. J'aime mon Église parce que je partage sa vision pour annoncer le message de l'Évangile. J'aime mon Église parce qu'elle développe le caractère de Jésus-Christ et toutes sortes de fruits abondants. Et puis j'aime mon Église parce qu'elle est missionnaire, parce qu'elle répond à l'appel de Dieu, parce qu'elle porte l'Évangile jusqu'aux extrémités de la terre. Si vous avez reconnu votre Église dans les points que j'ai cités, bénissez Dieu. Bénissez Dieu pour votre Église. Bénissez Dieu pour votre Église et continuez à remercier le Seigneur et à dire « Oui, j'aime mon Église ». Et l'aimer non seulement en parole, mais en action. Parce que c'est un grand privilège que vous avez là. Vous pouvez voir des gens qui pleurent parce qu'ils ont de mauvais pasteurs, parce qu'ils ont une mauvaise Église. Ça existe aussi. Et si vous en avez une bonne, alors bénissez Dieu. Et puis, si vous n'avez pas reconnu toutes ces caractéristiques dans votre Église, certainement il y en a d'autres, mais priez Dieu. Priez Dieu pour que chacune de ces caractéristiques soit manifestée au sein de votre Église. Amen. Que Dieu vous bénisse.